Françoise Tressard et la belle équipe en piste jusqu'à 13h58. C'est la récré et il fait bon sourire sur France Culture. Sourire avec les yeux qui plissent de plaisir. Rire, bulle, rire, bête et bon. À l'affiche, joli dimanche et inventaire de vos pères et mères rêvés, Lucas Fournier.
Moi, j'aurais aimé avoir Zeus comme père.
Oui.
Le seul problème à être le fils de Zeus, c'est que j'aurais été du coup le frère d'Apollon. Et cela aurait gâché une partie de ma vie sentimentale. Je vois déjà la scène à l'école avec la plus jolie fille de la classe. Dis donc, Lucas Zeus, tu peux me présenter ton frère?
Rire alexandrin pour Petit Rimailleur, cholestérol pour le charcuterie parc de Patrick Beignet, rire gonflé pour Détournement de Flaubert avec Jacques Jouet, Jacques Bertrand, Dominique Muller. Et puis, Des mots nouveaux pour le dire par Eva Almassi, Patrice Delbourg, Violaine Schwartz et son rire délicieux. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pendant un an. À réécouter 1000 jours sur la page d'accueil des papous de ce 26 octobre où vous nous écrirez, on vous lit, rubrique commentaires. Et pour lancer ce numéro des papous dans la tête, rire tendresse, rire caresse, façon bachung, pour un joli dimanche par Hervé Le Tellier.
Je veux pas me réveiller, c'est le sourdu geigneur. C'est mieux qu'un jour férié, on slip jusqu'à pas d'heure. Je vais finir par ouvrir aux deux témoins de Jéhovah, histoire de leur bénir des pains au koala que Noé n'avait pas. Oh, oh, vers le septième jour, le voisin du palier me lit du Saint John Perse, concierge dans l'escalier. Je suis un bébé que berce une nounou perverse. Oh, oh, vers le septième jour, sous mes pavés, y a tes galets. Tu regardes mon gigot flageolet. Ça me dit mes mains sur tes hanches, mais je m'y prends comme un dimanche. Oh, oh, vers le septième jour. Un jour en demi-teinte, les heures sont à la bourre, au bout du labyrinthe. Y a de la place sous les plaintes, je veux de l'amour en pièces jointes. Oh, oh, vers le septième jour. On peut pas marcher sur les pelouses, et les pigeons me foutent le blouse. Ça me dit mes mains sur tes hanches, mais je m'y prends comme un dimanche. Oh, oh, vers le septième jour, c'est le sourdu geigneur. On ne reconnaît pas du tout l'air. Hein. C'est mieux qu'un jour férié, on slip jusqu'à pas d'heure.
À tout à l'heure, Hervé. Au rayon catalogue des papous dans la tête, je vous propose l'inventaire de nos pères et mères rêvés. C'est une idée de Jacques Jouet. Quel père, quelle mère auriez-vous aimé avoir? C'est un sujet délicat à traiter avec légèreté. Pour dresser liste commune avec Jacques Jouet, Jean-Bernard Pouille, Odile Conseil, Patrice Delbourg et Lucas Fournier pour un premier père de substitution. Lucas.
J'aurais aimé avoir pour père le général Joseph Léopold Sigisbert Hugo. Parce que alors c'est moi qui aurais écrit « Mon père, ce héros au sourire aussi doux, suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille, le champ couvert de mort sur qui tombait la nuit. »
Oh, ils sont trop forts.
Il lui sembla dans l'ombre.
Entendre. C'était un Espagnol
de l'armée en déroute.
C'était plutôt une crapule d'ailleurs, le père de Hugo.
On parle pas comme ça de mon papa.
Jean-Bernard Pouille.
Moi, dans le jeu de cette famille, j'aurais aimé être le fils de la famille pâtissier. Avec le père, un roi du Paris-Brest, la mère spécialiste du clafoutis, le grand-père connu pour ses choux à la crème et la grand-mère pour ses tartes aux pommes.
Ah, évidemment, évidemment. Odile Conseil.
En moi, parfois, je rêve que mon père soit l'air et ma mère la joie. Je serais ainsi fille de l'air et fille de joie.
Oh. Jacques Jouet.
J'aurais bien aimé être le fils de Bouvard et Pécuchet, mais je n'ai pas encore décidé qui serait le père porteur.
Lucas Fournier après Victor Hugo.
Ben moi, j'aurais aimé que ma mère soit Jézabel, parce que c'est moi qui aurais écrit « Ma mère Jézabel, devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté. »
Voilà. Patrice Delbourg.
Bon, j'aurais aimé avoir pour parents deux sportifs de haut niveau, tels Dana et Émile Zatopek, ou Steffi Graf et André Agassi plus près de nous, voire Anna Bernard.
Roger Federer.
Ah non, non.
Comment ça, non?
Laure Manaudou.
Non plus.
Bon. Ou de la skieuse de descente, la Vonne, enfin bon, bref.
Lindsay Vonne.
Lincevon. Ouais. Histoire que l'éducation physique soit obligatoire à la maison. Bouge ton corps, bouge, exit les capitons, check it baby.
Vous prétendez ne pas avoir fait assez de sport, quoi. C'est ça l'idée. Vous aimez ça, mais
je prétends n'avoir pas été encouragé dans l'effort physique.
Ah oui, ça c'est dommage. Hein.
C'est dommage parce que j'avais un corps d'athlète au départ.
Ça se voit, oui.
Il y a encore un peu de potentiel, moi je trouve.
De potentiel.
Odile,
je ne crois pas m'être jamais dit que quand mon père mourrait, je serais fille du feu.
Oh. On voit que vous faites des mots croisés. Hein.
Moi, j'aurais voulu être le fils de Jean-Sébastien Bach. Vous connaissez la plaisanterie. Carl-Philippe Emmanuel, venez ici tous les trois. Il a eu tellement d'enfants, plus d'une vingtaine, qu'il ne devait pas être là toujours sur votre dos. J'aurais pu faire des tas de bêtises. Puis j'aurais peut-être appris la musique.
Hey, Jean-Bernard.
Oui, à propos de gens célèbres, moi, j'aurais bien aimé avoir Picasso comme père. Pour vivre d'abord bien près d'un génie.
Oui.
Pour habiter près de la mer, en général, bon. Pour voyager, et surtout, pour garder dans de gros dossiers tous les petits dessins, crobards, esquisses, collages qu'il n'aurait pas manqué de me faire et de me donner, en père aimant et attentionné.
Eh oui, oui, vous aurez gâté, Lucas Fournier.
Moi, j'aurais aimé avoir Zeus comme père.
Oui, qu'est-ce qu'il vous aurait dit?
Bien sûr, nous aurions eu des histoires familiales très compliquées, de familles décomposées, recomposées. Enfin, le patrimoine génétique est bon. Je parlerai le grec couramment, j'aurai beaucoup de relations. Le seul problème à être le fils de Zeus, c'est que j'aurais été du coup le frère d'Apollon. Et cela aurait gâché une partie de ma vie sentimentale. Je vois déjà la scène à l'école avec la plus jolie fille de la classe, dont je serais amoureux, et qui me dirait « Dis donc, Lucas Zeus, tu peux me présenter ton frère ?»
Mais tu l'aurais tué, Apollon.
Patrice.
Ah, avoir des parents que je n'aurais pas connus. Mais dont chacun me répéterait à l'envi, sur le trottoir, au comptoir, qu'ils étaient un modèle d'harmonie et de mansuétude. Un couple modèle, quoi. Qu'est-ce que j'aurais été fier.
On aimerait tellement que vous reviviez votre enfance, Patrice. On est absolument désolé.
C'est fini.
Odile.
Je vais dédier ça à Pouy. Hein.
Quoi?
Parce que vraiment, vraiment, j'adorais être la fille de Mary Poppins et de Berthe, ce personnage qui est à la fois homme orchestre et ramoneur dans le film. Parce que j'ai toujours été un peu triste qu'il n'y ait aucune histoire d'amour entre eux. Et en étant le fruit de cet amour, je passerai des journées magiques à chanter et à danser avec des pingouins.
Mais alors pourquoi ça m'est dédié, ça?
Parce que tu détestes Mary Poppins.
Ah oui, bon, d'accord, oui, c'est sûr.
Jacques Jouet.
Mère, la Vierge Marie. Père, 100.
Jean-Bernard Pouy.
Le rêve, je crois, pour tout enfant, serait d'être le fils unique d'Attila et d'Erekan, son épouse. Pour plusieurs raisons. Voyager dans toute l'Europe de l'Est, à cheval, goûter le sel amer de furieuses batailles, mais surtout être sûr d'avoir tous les jours un steak tartare à manger. Et ça, c'est important pour un enfant.
Moi, j'aurais aimé avoir un loup et une louve comme parents.
Oui.
Comme ça, j'aurais été louveteau pour de vrai, d'abord. Un peu comme ceux que décrit Vigny, quatre formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux. Quand le maître revient, les lévriers joyeux. Je ne continue pas.
Il a entraîné sa mémoire.
C'est la mort du loup. Mais surtout, je pourrais répondre enfin à cette question existentielle. Si l'homme est un loup pour l'homme, le loup est-il un homme pour le loup?
Ah! Oula, ça va très loin, ça.
Eh oui.
Patrice,
j'aurais tant aimé avoir des parents intellectuellement stimulants. Un père qui aurait pu résoudre le dernier théorème de Fermat ou une mère apte à traduire l'almanach Vermeau en espéranto. Chouette, non?
Chacun ses rêves, hein, Patrice, chacun ses rêves. Et vous, Jean-Bernard Pouy, qui auriez-vous aimé avoir comme papa ou comme maman?
Une autre famille dans laquelle j'aurais bien aimé brûler ma jeunesse est celle du roman Crypto-Scout du Robinson Suisse. Des parents qui emmènent leurs enfants en bateau, sous les tropiques, ciel bleu, mer transparente et tempêtes effroyables. Ce qui ne manque pas d'arriver, la tempête. Mais les parents ont tout prévu. Dans la cale, il y a l'équivalent du sous-sol du BHV. Dès lors, c'est un plaisir inouï et formateur, sur l'île déserte, d'avoir à tout reconstruire, tout en apprenant, sous le soleil et les bananiers, comment le faire.
Ah bah. Le bonheur.
J'ai ça en magasin.
Ah bah, allez-y,
ça, c'est un grand rêve, Jean-Bernard.
Oui.
J'aurais tant aimé avoir des parents voyageurs. Une sorte de famille Mahusier, les pionniers du Contiki, les baroudeurs de la Napurna, qui m'auraient rapporté pour ma petite chambre d'enfant des masques d'ogon, des cailloux du lac Titicaca ou bien des canines de tigre du Bengale. Fils d'aventurier, alors que moi, mes parents, ils n'ont jamais traversé les périphéries.
Lucas Fournier.
J'aurais aimé être le fils d'Al Capone. Parce que je suis sûr qu'à l'école, quand j'étais petit, les choses se seraient passées très différemment pour moi.
Odile.
Alors, petite, je rêvais d'être la cinquième fille du docteur Marsh. Mais j'ai changé d'avis en relisant le livre avec mes filles il y a quelques années, parce que j'ai alors découvert dans une nouvelle traduction que le docteur Marsh était en fait le pasteur Marsh. Et de fait, tout le livre est nourri de trop pieux et de trop charitables sentiments pour moi. Du coup, je préfère être la quatrième fille du docteur Marx.
C'est pas la même chose. Et vous, Jacques Jouet ?
J'aurais voulu être... Je voudrais.
Ah, c'est pas la même chose. Hein. Encore, oui.
Je serai.
Ah, oui.
Le fils de mon fils. Oui, c'est ce qui va arriver, car il m'a promis que dès qu'il aurait 7 ans, c'est lui qui me portera dans ses bras.
Oh. Vous ferez la photo, s'il vous plaît.
C'est un peu pareil. J'aimerais que par un tour de passe-passe temporel, mes enfants puissent devenir mes parents. Pour la bonne et simple raison qu'avec l'impeccable éducation que je leur ai donnée, ma jeunesse deviendrait un rêve éveillé et un bonheur de presque tous les jours. De plus, et ainsi, je n'aurais pas en moi le douloureux questionnement de leur disparition, car ils resteraient toujours beaucoup plus jeunes que moi.
Eh oui, ça va loin tout ça. Hein.
J'aurais tant aimé avoir des parents marchands de jouets. Non pas que je fusse privé des traînes à Noël, oh non. J'étais plutôt gâté même. Parfois j'avais deux Noëls,
deux
trois,
oranges.
Quatre. Je me souviens même qu'en 1957, j'ai eu 5 Noëls. Allez savoir.
Bah, vous voyez que vous avez eu une enfance heureuse. Qu'est-ce qu'il nous raconte depuis tout à l'heure ?
Quand on a 5 Noëls, ça veut bien dire des choses. Hein.
Mais,
cela m'aurait permis d'avoir en avant-première les derniers modèles des petites voitures de chez Dinky Toys. Au 1/43e, la Talbot Lago, la Borgward, voilà. L'Audi Quattro, la petite NSU Prince, enfin des modèles rares. Hein. Les trains Hornby aussi en Zamac, avec leur embiellage réaliste. Et surtout les petits soldats de plomb peints à la main, fabriqués en Suède. Quel panard ! La tête des copains dans la cour de récré.
Pas mal. On revient à vous, Jacques Jouet.
Oh, maman. Sherazade, maman, je suis ton fils, Sherazade, maman, tu me racontes une histoire, maman.
Grand Magic Circus pour les mille et une nuits. Et pour les papous, nouvelle séance de notre dico en vers de la langue française, le Petit Rimailleur, un dictionnaire dans lequel les définitions se présentent sous forme de poèmes, mais il ne s'agit pas pour le rédacteur de mettre en vers tout simplement un dictionnaire classique, non, à chacun sa définition des mots. Et pour le reste, un contrôleur veillera sur les oublis et sur les dérives. Les dimanches du dictionnaire avec un mot au programme. Hervé Le Tellier, le mot garde,
oui.
Vous êtes arrivé. Mmh. Garde à vous Hervé.
À moi.
Hein, vous vous rendez compte ?
Oui.
Ah, vous avez fait votre service militaire. Hein.
Et c'est à Violaine qu'incombe la dure mission de vous vérifier, vous.
Ouais.
Et votre définition sur le mot garde, évidemment, Violaine Schwartz est armée d'un dictionnaire classique, pas en vers, comme ce que vous avez fait vous, Hervé Le Tellier, qui est en vers, n'est-ce pas?
Qui est en vers, qui est en vers. Enfin, c'est, je l'ai imprimé en noir, mais c'est en vers.
Oh le niveau,
oh là là, je préfère être mal armé.
Certains jours, ça vous arrive, oui, Patrice, comment? Non, je voulais dire quel genre de vers?
Alors, ce sont des alexandrins.
Voilà.
En tout cas, il y a 12 syllabes. Et comme parfois il y a un hémistiche, de temps en temps, on a affaire à un alexandrin.
Alors, vous avez conscience que le mot garde est extrêmement riche.
Oui.
Je vois que vous avez une petite page, c'est normal.
Oui, c'est normal.
Oui, bon. Et bon, on y va, on écoute.
Ça s'appelle la garde de Bellegarde. Garde-moi, garde-moi. Tu es ma belle page, moi ta page de garde. Tu es mon avant-garde et moi ton arrière-garde. Moi, je te garde corps et je te garde boue. Je te garde barrière et je te garde fou. Toi, tu me gardes meuble et tu me gardes pêche. Me garde forestier et me garde champêtre. Moi, je te garde chasse et garde de culasse. Et garde de serrure et je te chien de garde. Toi, tu me mets en garde et tu me gardes à vous. Tu dis rompez, je romps. Et tu me je ne garde. Me garde national et me garde civil. Garde républicaine et j'attends la relève. Je suis garde pantin et puis garde Bellegarde. Et puis tu fais de moi ton doux garde-malade. Mais je n'y prends pas garde quand c'est mon tour de garde. Quand tu baisses la garde, que tu gardes mobile, tu regardes où trouver la pharmacie de garde. Et puis, pour en finir, enfin, tu gardes Enal.
Oula, oui. La garde est grave et ne se rend pas.
Et si je t'aime, prends garde à toi.
Garde à toi.
C'est exactement contenu.
On dirait une chanson de Jean-Loup Dabadie un peu.
En fait, je suis entièrement calé sur une chanson de Jean-Loup Dabadie.
Violaine Schwartz, alors...
Oui, c'est très beau, mais...
On n'en a pas la définition.
Oui, t'as remarqué hein.
Non, du tout. Hein.
Non. On tourne autour. Je
oui,
pour
Violaine,
moi.
Vous qui avez le dictionnaire.
Oui, je n'ai pas entendu parler du droit de garde, du chien de garde.
Un chien de garde, si.
Ça, pardon.
Oui.
Ah, d'accord.
Mais droit de garde, non, je trouvais ça trop...
Et la bière de garde, c'est souvent très, très bon, ça, non?
Ah oui, bien sûr.
Mais bon, c'est pas le problème vrai que c'est tellement... Il y a une très longue définition. Dans...
Oui, c'est vrai.
Alors, garde la définition.
Finalement, Hervé Le Tellier a fait un choix et ma foi, on ne peut pas lui en vouloir.
Bah, oui, voilà.
Il faut dans la vie faire des choix.
Oui.
Voilà, j'ai fait un choix de ramassis. Hein,
oui, sans brévitude, on peut dire.
De brévitude, voilà, la brévitude.
Est-ce qu'il y a une ou deux jolies citations sur le mot garde, Violaine, dans le dictionnaire?
Il y en a une de Marcel Aimé, magnifique. Prenez bien garde de ne pas tâcher vos tabliers.
Ah oui, c'est intéressant.
C'est très intéressant.
Il y a presque la même chez Maurice Genevoix et chez Marcel Pagnol.
Il y en a une de Monterland aussi.
Ah oui.
Je l'ai mise en garde contre la confusion du sacré et du profane.
C'est important.
Oui, c'est important.
C'est très important. Oui. Je sens que Lucas Fournier a quelque chose à ajouter sur le mot garde.
Oui, moi j'ai trouvé une citation dans le dépliant du syndicat d'initiative du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ah oui.
Dans les conseils aux visiteurs de Notre-Dame de la Garde, il est écrit « Quand vous arrivez à la garde, freinez
». Oui.
Oui. C'est dans la tête et sur France Culture. Françoise Ressart et la bande des papous du jour. Et oui, et c'est l'heure de Culture Park. Les parcs d'attractions font le bonheur des petits, manèges, chamboule tout, aquapark, zooparc, parc BD. Les grands y vont aussi, mais pour accompagner les petits. Mais pour eux, pour les grands tout seuls, eh bien nous, aux papous dans la tête, nous proposons des parcs différents. Comme le parc du roman fleuve, celui de la salle des pas perdus pour tout le monde, ou encore le Coculand. Ah, c'était bien le Coculand. Un parc où chacun viendrait avec son cocu, arrangé dans un des nombreux placards à la Fédo installés sur le site. Cette idée d'un Coculand, eh bien, c'était la vôtre, Patrick Beignet, et elle n'a pas vu le jour. C'est dommage. Mais comme vous êtes un imaginatif, vous avez un nouveau projet et vous cherchez une nouvelle fois des sponsors. Et on vous dit bonne chance. Il s'appelle comment ce nouveau parc?
Il s'appelle Charcuterie Parc.
Ah oui, c'est un bon titre, ça.
C'est pas très heureux, mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire.
Pourtant, Pork Parc, ça aurait été bien.
Mais Eva, ça, c'est le genre de projet que vous mènerez à bien un jour après un naufrage de la charcuterie parc. Mais je ne suis pas pour les allitérations omniprésentes.
Alors, qu'est-ce qui se passerait ?
Eh bien, ce qui se passe, d'abord, avant de, d'en venir au futur, ce qui se passe, c'est que la charcuterie est en péril. Je ne sais pas ce qu'il y en a dans votre quartier.
Il n'y en a pas.
Mais, et, alors que dans votre enfance, il n'y avait presque que des charcutiers, je suppose.
Non,
que
non plus. Non plus. Mais dans l'enfance des autres, oui. Voilà, ouais, sûrement dans l'enfance d'Hervé Letellier.
Ah, moi, j'étais environné de charcutiers. Mon père était charcutier, ma mère était charcutier.
Voilà, voilà. Tout allait bien.
Je suis très inquiet de voir le déclin de la charcuterie comme commerce. On trouve encore, mais généralement sous cellophane, des rondelles de salami ou de...
Dans les grandes surfaces.
Oui, voilà. Bon, c'est pas ça. Et donc, j'ai contacté le Centre National de la Charcuterie pour voir si nous pouvions nous associer pour faire un parc, un charcuterie-parc, qui relance...
La charcuterie.
Cette belle tradition typiquement française.
Oui.
Alors, j'ai eu, je dois dire, des bâtons dans les roues du ministère de la Santé...
T'aurais fait fruits et légumes parc, t'aurais pas eu de problème.
Exactement. Alors, je me propose quelque chose de monumental, avec une entrée, un portail, qui serait constitué de deux rillons agrandis 75 000 fois.
Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un rillon, personnellement. Un rillon de porc.
De porc, ou poulet. De volaille, de d'oie ou de canard, plus que de poulet. Peut-être en Hongrie, c'est au poulet.
Ah non, c'est au canard. Hein.
Ben, ce sont les tissus adipeux, spécialement du porc, qu'on fait confire dans la graisse.
D'accord.
Je vois que vous en léchez déjà les babines. Et donc, deux rillons agrandis 75 000 fois formeraient les deux piliers. Hein. Et au centre, il y aurait une reproduction du penseur de Rodin, Henriette, au moins 5 mètres de haut.
Ah oui.
Donc
ah
voilà,
oui.
C'est une entrée qui marquerait...
copieuse, oui.
Voilà.
Belle entrée, oui.
N'est-ce pas? Ensuite, j'ai une attraction culturelle, c'est de revisiter les fables de La Fontaine en mettant en valeur le cochon, qui est très peu utilisé par La Fontaine. Je sais pas si vous avez
pensé. C'est vrai, il y a des renards, des poules... Voilà.
Et alors, donc, il s'agit de réécrire, de réciter ou de jouer les fables. En remplaçant certains rôles par le cochon, le corbeau et le cochon et l'agneau, le chêne et le cochon. Vous savez combien il y a de fables de La Fontaine ?
Pas précisément, non.
Mais moi non plus, mais ça fait certainement un bon nombre d'attractions.
Et oui, ça fait donc du travail de préparation, oui.
Bah oui.
Pour l'attraction, oui, mais c'est bon normal. Parc, hein. Tout est à créer, oui.
J'ai un grand projet du côté des arts plastiques, c'est de faire de gigantesques mosaïques à partir des grands chefs-d'œuvre de l'art occidental, composés de toutes sortes de des rondelles de saucisses.
La langra.
Voilà, c'est ça. Et reproduisant à une échelle monumentale donc des tableaux célèbres ou des fresques célèbres. On pourrait imaginer la chapelle de la Sixtine entièrement reconstituée avec des bouts de charcuterie.
Ça risque de surprendre quand même, non ?
C'est bien,
c'est le but.
Des petits cochons à la place des chérubins, par exemple.
Non. Hervé, vous n'avez pas suivi.
Non, on ne peut pas faire ça.
Non. Bon. Il faut reproduire, mais par exemple, il y a des bleus, depuis la restauration de la chapelle de Sixtine, il y a des bleus absolument éclatants. Et je n'ai pas trouvé de charcuterie de cette couleur-là, Bon, enfin, il y aura une métamorphose de Michel-Ange. Et enfin, j'ai une grande attraction qui sera du patinage artistique sur une piste en saindoux glacé.
Ah, ça, c'est très amusant. Hein. Oui. Je vois très bien Eva avec ses petits patins, son tutu et bouh.
Et bon, donc, il y aurait de temps en temps des grands spectacles. Le lac des cochons. Par exemple, d'après Tchaïkovski, des choses de cet ordre-là.
Mais les spectateurs seront appelés à jouer les personnages Je ne comprends pas bien ce que font les spectateurs en dehors de regarder
et de patiner.
Le plafond et de patiner. Par exemple, par rapport à la reproduction du plafond de la Sixtine,
qu'est-ce qu'ils font ? Probablement, ce sont les visiteurs.
Qui créent.
Vous en faites des spectateurs, mais c'est une erreur fondamentale. Ce sont les visiteurs qui sont invités, bien sûr.
À créer.
Voilà.
Ah ben c'est tout bénéfice pour vous, ça, c'est clair.
Oui, pourquoi ?
C'est-à-dire qu'en fait, vous les faites entrer entre deux rayons.
Oui.
Les intermittents de la charcuterie.
Et après, c'est eux qui fabriquent le charcuterie parc. quelque sorte. Non, Hervé va venir avec ses petits saucissons, il va prendre la Sixtine.
Oui, mais c'est dégradable tout ça, donc c'est à recommencer en permanence.
À chaque fois.
Ben oui.
Et le droit d'entrée, ce serait élevé?
Parce que quand pour l'instant, j'en suis à la sortie.
D'accord.
Si bien, hein. Parce que la sortie...
Et les frais de port?
Ce sera un peu difficile. Non, c'est là où le ministère de la Santé a exigé qu'il y a, pour sortir du parc, on passe par un pavillon pédagogique où on vous explique à quel point manger gras est dangereux. Donc, il ne faut pas trop manger gras.
Ah, donc on ne repart pas avec un saucisson, un jambon, non. Tout ça est factice, en fait.
C'est les marchands du temple.
Oui. C'est assez déprimant si, en sortant, on vous dit que ce que vous avez fait, c'est complètement contraire à vous.
Mais les foules étant par nature stupides, ce n'est pas parce que ce sera déprimant qu'elles ne viendront pas. Et quant au prix d'entrée, écoute, oui. Je n'y ai pas encore songé. Je ne suis pas un homme d'argent.
Hein. Ah non. Non. C'est tout, hein.
Oui.
Oui. Le temps a passé, Patrick Beignet. Oh là là, il a fallu 10 ans. 10 ans, mais
c'est un gros projet aussi.
Le parc existe, un charcuterie parc, c'est même assez connu. Et puis, il y a déjà de l'expérience, parce qu'il y a des gens qui sont venus le voir. On a des visiteurs. On a Eva Almassy, par exemple, qui travaille au parc.
Ah, moi, je travaille.
Oui,
je
donc travaille. Elle a un point de vue, évidemment, sur le directeur. C'est Patrick Beignet, le directeur. Oui, il n'a pas passé la main. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez du parc? C'est bien d'y travailler? C'est sympathique?
Oh bah, il faut avoir sa motivation hein, pour y travailler.
Et vous n'avez pas l'air de l'avoir trop, non?
Si, si, oui. Mais enfin, ce n'est pas facile tous les jours. Ah bon? Enfin, il faut bien dire que moi, je suis la boulangère du parc. Parce
ah, il
que toute cette
pas dit qu'il y avait
saucissonnade, il faut bien un peu de bon pain. Parce que ça va ensemble.
Oui. Et vous faites beurre cornichon aussi? Non, juste...
Du pain.
Juste le pain, oui.
Ben avant, j'étais pianiste. Et puis, il y a eu la question fameuse d'Eric Satie sur votre annonce d'offre d'emploi. Est-ce que vous préférez la musique ou la charcuterie? Ah. Et là, je me suis bien rendu compte que la musique ne payait pas. Donc, je vais choisir la sécurité. Et donc, l'un dans l'autre, j'ai pris le job.
Oui.
Je serai bientôt à la retraite pour cause de travail pénible. Enfin, si on vote la loi où on raccourcit les années de service pour la pénibilité, parce qu'il faut bien dire que moi, non seulement je suis végétalienne, et en plus, depuis peu, je pratique le crudivorisme. Donc, dans ce parc où on paye, hein, je dois dire, la moitié de mon salaire en nature, avec les restes chaque jour, je ne peux pas les consommer personnellement. Donc, j'essaie de les refourguer, mais ça ne m'enrichit pas beaucoup. Par contre, il y a de nouvelles attractions.
Ouais.
Hein, depuis 10 ans, ça a évolué. Et si j'ai d'emblée adoré le patinage sur la Seine d'où je l'ai, il existe maintenant la fabrique de chair à saucisse. Et ça, c'est extrêmement jouissif de voir ce qu'il en sort.
Mais je veux pas être contrariante, mais enfin, à la fois vous travaillez et en plus vous êtes visiteuse, quoi. Donc c'est quand même un boulot intéressant parce que
quand
on travaille quelque part, on n'a pas le temps de faire les attractions.
Je boulange à l'aube.
Oui.
Ensuite, je vends mon pain.
Oui.
Et de temps en temps, je ne suis quand même pas seule. Pendant une pause pipi, je visite un peu. Et puis je parle avec les clients. Les clients satisfaits, qui, encore mieux, après avoir fabriqué la chair à saucisse, peuvent remplir d'immenses boyaux. Alors là, c'est le côté très joli aussi de la charcuterie. Donc, réalisme. Moi, je ne démissionne pas, monsieur le directeur. Et
j'aimerais bien vous faire déménager, à mon avis.
J'aimerais bien que vous m'augmentiez un petit peu, puisque c'est bien pour la paye que je suis là.
Oui, mais alors pas en nature, en argent. Qu'est-ce que vous pensez d'elle comme employée? Est-ce que ce serait l'employé modèle, Patrick Beignet?
Et jusqu'ici, ça allait bien, mais ça se termine sur des revendications d'une banalité confondante. Vous ne pensez donc qu'à ça. Et puis je pense que vous Vous faites quand même beaucoup de pauses pipi là, pour connaître à ce point le parc. Donc, je me demande si vous ne devriez pas retourner au piano.
Non, et d'autant que j'ai connu à la Ferté-Milon, ville natale de Jean Racine, un charcutier cet authentique qui s'appelait Monsieur Cerveau. Donc, sachez que ma lettre est bien réfléchie.
Oh, oui, c'est une tentative de diversion. Il parle de pause pipi, il me parle du cerveau.
J'ai aussi parlé de la vessie. Non, il est trop fort, le patron, pour ça. Bon, ce parc existe, il faut bien le visiter, Jacques Vallée. Vous êtes visiteur.
Oui, mais j'ai tenu Charcuterie Parc à son apogée.
Bon, parce que là, on est sur le déclin. Donc,
oui, il attirait une foule impressionnante d'affamés. On aurait pu croire que les gens jeûnaient pendant des semaines avant de se décider à visiter ce parc. Et les deux rayons, agrandis 75 000 fois, étaient grignotés, arrachés, avalés en une heure à peine.
Voilà.
Ce qui obligeait les organisateurs à les remplacer après un moment de flottement, parce qu'ils prenaient leur temps pour le remplacer, parce que c'était aussitôt avalé. Je n'ai pas pu accéder à la salle des arts plastiques. Elle avait été entièrement dévorée par les visiteurs.
Ah oui, mais...
Et puis, les gens se battaient autour des dernières rondelles. Un groupe en était venu aux mains et les injures fusaient. En douille, grande saucisse. Voilà, je suis parti sur cette impression de bagarre générale.
Oui, enfin, ça fait des souvenirs quand même.
Hein. Ah oui, ça m'a intéressé.
Vous voyez, Patrick Beignet, c'est un visiteur enthousiaste.
Mais
quand
j'en
même,
connais beaucoup.
Hervé Le Tellier, vous êtes employé sur le
site?
Non,
pas du tout. Non, je suis installé à côté. Je suis le docteur Joseph Florent. Je suis cardiologue.
Ah, évidemment. Oui.
Et je dirige un petit... Je pense que vous connaissez cet endroit, c'est Triple Pontage Park.
Non, j'en ai entendu parler. Moi, je n'ai pas fréquenté personnellement.
On s'est installé juste à côté de Charcuterie Park, 3 ans après leur ouverture. Hein. Bon, au début, on n'était qu'un petit dispensaire de banlieue. Hein.
J'imagine.
Oui. On met très vite avec leur succès. Il a fallu agrandir. Hein. Ils ont embauché quand même 200 employés qui étaient logés, nourris, payés en nature. Oui. Vous imaginez le besoin de notre côté de suivre leur développement. Oh. Alors, on n'a pas d'entrée monumentale, nous, hein, comme Charcuterie Park. Nos visiteurs arrivent directement aux urgences. Oui. Mais on a quand même, et là, je vous parle sous la statue monumentale, néanmoins, de la molécule de cholestérol, un magnifique assemblage filaire d'hexagone, donc C7H46O, hein, plusieurs dispositifs, le bon, le mauvais, enfin, grosso modo, c'est le même. La nôtre est agrandie 75 milliards de fois, 30 mètres de haut, entièrement... Oh, ouais, on appelle pas mal, hein.
Ouais.
Entièrement doré à la feuille d'or. Ouais. Ah oui, ça rapporte un petit peu. Hein.
Ouais.
Alors bon, bien sûr, l'anesthésiste voulait, lui, des toboggans, avec, vous voyez, des aortes toboggans, des veines caves, balançoires, tout ça. Moi, j'ai dit non.
Ah
non.
Bon, pourquoi ça aurait été amusant, non.
Un Triple Pontage Park, on n'a pas d'attraction. On reçoit, on endort, on opère, on réveille, on fait payer. Je crois que c'est la meilleure façon de faire. Hein, c'est la façon logique. Les gens sont contents, d'ailleurs. Et puis voilà, je pense qu'on va continuer à fonctionner un certain temps, tant que la Sécu existe.
Hein? Oui. Alors, ce que je pense, c'est que vous devriez vous associer, parce qu'il y a un rapport direct entre vous deux. C'est évident.
Il y a un rapport direct, mais l'association n'est pas nécessaire.
Voilà. Vous n'avez, Patrick Beignet, pas besoin de lui.
Non,
non, non. Triple montage, vous n'avez pas besoin de fréquenter.
Le statut est doré à la feuille d'or. On n'a pas besoin de s'associer.
Et moi, une fois que j'aurai viré la boulangère,
oui,
les affaires vont repartir.
Coo-coo, he means it's time to woo. It's tickle time for all the lovers in my block. I got a heavy day, that's it, that's it, at 8. So tickle, tickle, is it really getting late? If I'm on time, woo-hoo, but if I'm late, woo-hoo, this is the one I have, so mean I want to wait. For just a birdie and a birdie who goes nowhere. He knows of every lover's name and how to go there. For an offense of the heart, my tickle starts this month. It does me gently, sentimentally, at the start. Oh, I hear my little tickle, tickle calling. Because the time is right and she doesn't let it fall in. I love that that's a coo-coo, coo-coo in the clock. Tickle, 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 tickle in my clock.
Julia Migenes, tico tico.
Ma guarda, sono i papolini nella testa e tutto è su Francesca Cultura.
Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, les gonfleurs de texte, des mots nouveaux pour le dire avec Violaine Schwartz, Patrice Delbourg et Val Massy, et un joli dimanche par Gérard Mordilla. Pour les gonfleurs de texte, quatre écrivains, Jacques Jouet, Patrick Beignet, Jacques Abertrand et Dominique Muller. Et j'ai proposé au premier, Jacques Jouet, une jolie phrase qui balance bien et je lui ai demandé de la nourrir d'informations nouvelles avec un projet romanesque, cela va sans dire, sans déborder sur les côtés, c'est-à-dire ne rien mettre ni avant le premier mot, ni après le dernier. Aux gonfleurs, on respecte le cadre. On dilate à l'intérieur, on se glisse entre les mots de l'auteur pour bâtir une nouvelle histoire. Patrick Beignet, en numéro 2, gonflera à son tour, mais cette fois le texte de Jacques Jouet, et puis Jacques Abertrand procédera de la même façon avec celui de Patrick. Et Dominique Muller, hors contrainte, écrira l'épilogue de l'histoire et donnera le titre. C'est parti, Jacques Jouet, la phrase en jeu avant gonflement successif.
Au choc imprévu de cette phrase tombant sur sa pensée comme une balle de plomb dans un plat d'argent, en tressaillant, elle leva la tête pour deviner ce qu'il voulait dire.
Qui a écrit ça, à votre avis? Dominique Muller, c'est quelqu'un que vous adorez?
Rogrier, peut-être?
Non, ah non, c'est pas Rogrier.
Une balle de plomb dans un plat d'argent?
Oui.
C'est pas mal.
Oui. Patrick, aucune idée? Personne?
C'est Sagan, je suppose.
Non, c'est pas Sagan, non. Bonjour, c'est Flaubert.
Ah, c'est Flaubert.
Ah, mais oui.
Oh, mais
un Sagan à moustache.
Bien sûr.
Elle, c'est Emma Bovary. Oh là là. Alors, relisez-nous cette phrase, Jacques Jouet, s'il vous plaît. Ah,
bravo. Au choc imprévu de cette phrase, tombant sur sa pensée comme une balle de plomb dans un plat d'argent, en tressaillant, elle leva la tête pour deviner ce qu'il voulait dire.
Alors, cette phrase, vous aviez pour mission...
On la lit différemment quand on sait que c'est Flaubert.
Évidemment. Ça devient mieux. On lui accorde plus de crédit. Oui. Alors, cette phrase, donc, vous aviez pour mission de la nourrir de l'intérieur, d'autres informations, avec naturellement un projet romanesque. Vers quel genre d'histoire vous souhaitiez vous diriger?
Une histoire de chasse.
Ah bon?
Alors là, on n'avait pas de prénom, donc j'ai introduit des prénoms, des personnages.
Oui.
Vous allez voir.
Mm-hmm. Vous avez respecté le début et la fin, hein, comme il se doit.
Ah non, je ne savais pas qu'il fallait... Mais oui, j'ai respecté le début et la fin, bien entendu. Et tout le reste aussi, mais
bon, très bien,
quelques petites
très
choses
bien
insérées, c'est bien ça?
Oui.
Bon. Au choc imprévu de la grêle sur le toit de tôle de la Palombière, Hubert dit « Encore un jour à revenir bredouille ». Cette phrase déçut terriblement Émilie, qui attendait mieux du garde-chasse. Tombant à bras raccourcis sur sa pensée cinégétique et monomaniaque, elle leva la tête vers le ciel en furie pour tenter de deviner ce qu'il voulait dire.
C'est drôle parce que là où il y avait une Emma, vous avez mis une Émilie, ça commence pareil.
Miracolo.
Plus une palombière.
Et vous allez voir qu'Emma revient.
Elle reviendra à la fin avec
absolument
vous, Dominique Muller.
Oui, oui.
Ça, c'est...
Grâce à l'intuition géniale de Dominique.
Alors, vous avez été suivi, Jacques Jouet, par Patrick Beignet, qui n'a peut-être pas reconnu Flaubert sous Jouet, mais là n'était pas le jeu. Sous Jouet, oui.
Sur Jouet, plutôt.
Qu'est-ce que vous avez pensé du texte de Jacques Jouet?
Écoutez, j'ai trouvé ça romanesque. La
oui
romanesque vieillot, mais romanesque tout de même. Ça pourrait être tiré d'un roman de Jules Sandeau ou d'Octave Feuillet, qui doivent être les auteurs de prédilection de Jacques Jouet, j'imagine. Oui.
Et donc, vous poursuivez dans la même veine?
Oui.
Vous ne touchez pas à son ambiance, donc. Vous respectez.
Ambiance est un mot beaucoup trop fort.
Qu'est-ce que je prends là?
Mine de rien, oui.
C'est le cadeau pour l'année, Jacques Jouet.
Non, mais c'était très bien, mais...
Voici votre paquet.
Oui.
Au choc imprévu de la grêle sur le toit de tôle de la Palombière, Hubert dit qu'en des temps anciens, son oncle Bedminster s'était une fois exclamé « Encore un jour à revenir bredouille, avant d'ajouter sans autre forme de procès, « Aussi ne partirai-je pas à la chasse aujourd'hui ?» Cette phrase déçut terriblement Émilie, qui attendait le départ de son mari pour mieux se donner au garde-chasse. Tombant à bras raccourcis sur la pusillanimité de son mari, elle exprima sa pensée cynégétique d'un ton lascif et monomaniaque. Elle leva la tête vers le ciel en furie, puis la tourna vers le garde-chasse qui faisait des signes cabalistiques avec la main gauche. Elle se concentra pour tenter de deviner ce qu'il voulait dire.
On a quand même une histoire d'amour à la D.H. Lawrence.
Grâce à moi.
Grâce à vous, grâce à vous.
Pas mais Flaubert, c'est vrai. Pas Jacques Jouet.
Oui, on n'est plus chez Ma Bovary, mais enfin...
L'époque est toujours là, c'est toujours au on fond, le 19e, quoi. Oui, hein, oui. Écoutez.
On ne peut pas écrire le mot garde-chasse sans que ce soit
bah oui, un peu connoté. Oui, c'est vrai. Je rappellerai quand même la phrase de départ qui était de Flaubert, tirée de Madame Bovary. Au choc imprévu de cette phrase tombant sur sa pensée comme une balle de plomb dans un plat d'argent, en tressaillant, elle leva la tête pour deviner ce qu'il voulait dire. C'était pas la même chose, quoi. Il n'y avait pas la chasse, la palombière, tout ça, mais c'est normal. Hein,
il y avait le plomb, déjà.
Il y avait le plomb, oui, bah, évidemment, oui. Il y avait le plomb. Jacques Bertrand, vous recevez en toute innocence ce joli texte de Patrick Beignet.
Oui, et je ne vois pas davantage que Flaubert ce qu'il voulait dire.
Non ? Non, mais vous avez quand même une histoire d'adultère sous tableau de chasse, quoi.
Oui.
Et donc, ils vont commettre l'acte de chair ou pas ? Ça... Ah, on va savoir. Ah,
encore faudrait-il qu'on me savoir ce qu'il voulait dire.
Oui.
Au choc imprévu de la grêle sur le toit de tôle de la Palombière, Hubert prit un air songeur. Au bout d'un moment, il prétendit qu'un matin de chasse, en des temps déjà anciens, à la suite d'un orage de grêle, son oncle Bedminster s'était une fois exclamé de sa voix de tonnerre « Encore un jour à revenir bredouille !» avant d'ajouter sans autre forme de procès, car s'il était d'humeur mauvaise, il n'était pas pour autant procédurier. Aussi ne partirai-je pas à la chasse aujourd'hui.
Ah.
Cette phrase déçut terriblement sa jeune épouse, Émilie, une petite rousse d'origine irlandaise, je ne vous dis que ça, qui attendait impatiemment le départ de son mari pour mieux se donner, dans quelques cabanes forestières, au nouveau garde-chasse, tellement irrésistible avec sa casquette à carreaux et son fusil en bandoulière. Tombant mentalement à bras raccourcis sur la pusillanimité de son mari, qui dut s'en sortir probablement avec seulement des bleus à l'âme, elle exprima violemment le fond de sa pensée cinégétique d'un ton à la fois lascif et monomaniaque, ce qui était tout à fait dans son style. Elle leva sa jolie tête en furie vers le ciel, en furie lui aussi de son côté, puis la tourna vers le garde-chasse qui faisait des signes cabalistiques contradictoires simultanément avec la main gauche et avec la main droite. Au risque de contracter un strabisme divergent, elle se concentra pour tenter de deviner, sans y parvenir, éternelle incompréhension des couples, ce qu'il voulait dire.
Oh, c'est trop, trop beau, hein. Ah oui, Dominique Muller, vous, je ne vous ai pas demandé de gonfler à nouveau ce texte, parce qu'il est parfait, ce texte
je
de Jacques
Bertrand. Je l'ai trouvé parfait, justement.
Oui, il est beau. Il y a une histoire, il y a des personnages.
Et très profondément marqué, il m'a imprégnée. Et donc, je n'ai pas cherché Midi à 14h. J'ai pensé comme titre à L'amant de Lady Bedminster, tout simplement. Oui, parce que franchement, oui. Ça résume, oui. Me semble-t-il, l'ensemble. Et j'ai imaginé un petit épilogue, mais vous allez voir que Emma Bovary est là. Lassée de la pusillanimité de son époux et du strabisme divergent de son garde-chasse, Émilie court sous la grêle, se confie à sa sœur Charlotte Brontë. Mais celle-ci est sur la lande attendant Heathcliff. Et Émilie, désespérée, court toujours sous la grêle, se réfugier chez son amie Emma Bovary, une femme qui comprend les déceptions sentimentales.
Elle est fine mouche quand même, Dominique Muller.
Mais mes deux amis sont témoins que je l'avais écrite avant que nous ne sachions tous que c'était elle.
Que ça partait d'une phrase de Flaubert.
En fait, dès qu'il y a de la déception amoureuse dans le coin, vous me direz, c'est toujours Emma Bovary, elle n'est jamais loin.
On pense à elle, oui, c'est vrai, on pense à elle. On peut rappeler la phrase du début,
c'était
Jacques Jouet.
C'était avant la mort d'Emma Bovary, cette scène. Oui.
C'est ce qui précède, quelques minutes avant.
Au choc imprévu de cette phrase tombant sur sa pensée comme une balle de plomb dans un plat d'argent, en tressaillant, elle leva la tête pour deviner ce qu'il voulait dire.
C'est vrai que si on ne sait pas que c'est du Flaubert, bon.
C'est qui ce il alors ?
C'est Charles.
Bon, c'est Charles.
C'est Charles qui fait une phrase comme une balle de plomb dans un plat d'argent.
C'est étonnant, non.
C'est pourtant pas son genre. Je suis pas si sûr. Pas son genre.
Ne me posez pas des questions absurdes. J'ai attrapé mon Emma Bovary, j'ai feuilleté. J'ai trouvé cette phrase qui me plaisait bien. Je ne saurais pas vous dire où elle se situe.
Ou alors c'est pardonné. Son amant, justement, qui lui dit de partir.
Je pense. C'est plutôt un des deux amants.
C'est pas Charles.
Oui.
Mais écrivez-nous si vous le trouvez.
Rubrique commentaire des papous du jour.
Blind in my mind, but now I realize I can open my eyes and see it was me all along who's accusing the darkness, and I was the one blocking out my sun.
Par Grace.
Eh les filles, les gars, les papous, c'est dans votre tête. Sur France Culture, hein ?
Oui !
Et c'est l'heure des mots nouveaux pour le dire. Des mots, sorte de raccourcis du langage, pour dire un lieu peut-être, assorti d'une action, d'un état, des mots nouveaux, imaginés par les écrivains des papous dans la tête, des mots que vous pouvez retrouver pour certains dans notre dictionnaire paru chez Gallimard. Exemple, le roussita. Le roussita, c'est le petit cafard du dimanche matin qui va croissant jusqu'au samedi soir suivant, il fallait un mot. Ou le verbe uspunir, qui signifierait faire de 2 heures de queue sous la pluie pour voir le dernier Lars von Trier et s'entendre dire en arrivant à la caisse « Désolé, c'est complet, mais il reste 2 places au premier rang pour le nouveau Lelouch ». Des mots très utiles donc. Création de Serge Joncourt pour le roussita, de Lucas Fournier pour uspunir. Aujourd'hui, c'est Violaine Schwartz qui a imaginé 6 mots nouveaux, ces mots. Elle leur a donné un sens bien précis et elle les a glissés dans une histoire de son invention. Ces mots, avant de vous en recommander l'usage, eh bien, nous les testerons auprès de nos 2 traducteurs, Eva Almassy et Patrice Delbourg. Ils sont chargés d'en retrouver le sens, peut-être, et de nous dire ce que Violaine a voulu exprimer dans son texte. Alors, on découvre vos 6 mots nouveaux, Violaine.
En fait, j'en ai même inventé 7.
Oh, mais ça, c'est voilà. Très généreux.
Je crois que j'en ai 7, voilà.
Oui.
Oui, parce que je me suis laissée emporter par cet élan. Alors le premier, c'est un verbe du premier groupe, vivituber.
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 Ouais, c'est mignon ça.
Mm-hmm. Et le deuxième verbe, qui est aussi du premier groupe, c'est claquevisser.
Claquevisser, ah, ça sonne plus violent, hein, alors que vivituber, on se disait ça balance bien, ça chante, c'est dansant. Claquevisser. Ah ouais, claquevisser.
Et c'est tout ça, c'est transitif ou intransitif?
Oui.
Elle n'est pas sûre.
Je ne suis pas tout à fait sûre. Si, bien sûr, on peut mettre un...
Alors, 2 verbes, vivituber, claque, visser, et les substantifs maintenant.
Oui, alors il y en a un premier, qui est masculin oui. et qui est le riadin.
Le riadin.
D-A-I-N à la fin.
Ah, voilà, très bien. Une question, Eva.
Le riadin, mais je digère.
Ah, mais c'est pas du riz au lait, c'est du riadin.
C'est transitif ou intransitif?
Est-ce qu'on peut claquer le riadin?
Ah, ça, c'est une bonne question, mais je pense qu'elle n'a pas le droit de vous le dire.
Je ne peux pas vous le dire.
Ensuite,
la ventrule.
C'est ventrule. Pour ça que je digère. Dans ma ventrule.
La ventrule. Une question, vous voulez savoir si c'est transitif, Jean-Bernard
Pouille. Non, mais ça fait un peu peur, la ventrule. Ça fait un peu... Enfin, ça fait maladie du cœur.
Ah bon? Un troisième substantif.
C'est de nouveau féminin, c'est la bleurgie.
Bleur?
B-L-E-U-R-G-I-E.
Voilà, voilà.
Ça fait un peu burk, hein?
C'est Borgia, je trouve.
Tout ça, avant Borgia ou maladie, non? Poison,
tout ça, ça fait
peut-être.
Un peu, oui, lendemain de cuite, un peu la ventrule, le riadin et une bleurgie.
Et hop, au lit.
Et là-dessus, on rajoute...
Une petite bleurgie et hop, la viande dans le torchon.
Et là-dessus, on peut encore rajouter l'ityllose.
Ah bon, féminin. Ah bon, alors là, oui.
L'ityllose.
L'ityllose.
Atylose.
L'ityllose.
Ah oui, donc ça, c'est plus près de la vertèbre, alors.
Et c'est une ou c'est un...
C'est une.
C'est une l'ityllose.
Ah. L'ityllose du docteur Gustin.
Voilà.
Et comme vous en avez fait sept, le septième est...
La capouclette.
C'est mignon.
La capouclette,
c'est sympa.
Ça. P-O-U.
Ça, j'adore. Ça.
P-O-U. Avec, c'est avec A-P-O-U. Un...
Ah oui.
C'est mon préféré.
Capouclette. Alors, on le réécoute. Je... Oui.
Il y a donc deux verbes, vivituber et claquevisser.
Oui. Et les substantifs?
Il y a le riadin, la ventrule, la bleurgie, la lityllose et la capouclette.
On aimerait bien écouter l'histoire dans laquelle vous faites vivre ces mots nouveaux. Une histoire, bien sûr, que vous avez inventée.
Depuis le matin, elle vivitubait formidable. Pour faire diversion, elle mit la radio et tomba sur des papots dans la tête. Mais elle ressentit aussitôt comme un riadin. Du coup, elle décida plutôt de passer l'aspirateur et de faire le ménage. D'autant plus que la lityllose l'exigeait. Dans le salon, en époustant la bibliothèque, elle fut prise d'une irrépressible bleurgie. Pour ne pas faire pleurer son fils, elle choisit au dernier moment de sortir prendre l'air. En chemin, elle marcha encore sur la capouclette de son mari, catastrophe. C'était la 13e fois qu'elle faisait cette bêtise, elle allait encore se faire engueuler, comme dimanche dernier quand elle avait claquevissé. Dehors, elle vit des canards qui nageaient en randonnions sur le canal. Ça lui rappela les vacances. En plus, il faisait un temps magnifique, quelle ventrule.
C'est bien, c'est très optimiste la fin. Évidemment, le début, qu'elle choisisse de passer l'aspirateur plutôt que d'écouter les papous dans la tête.
Ça ne m'arrive jamais.
Un tout petit peu vexant. Jamais. Ah oui, parce que vous n'aimez pas faire le ménage, vous. Hélène Schwartz, vos mots et votre texte ont été confiés donc à Eva Almassy, à Patrice Delbourg. Je les ai vus là, c'était difficile, ils se pressaient un peu les tempes, mais apparemment il y a des choses écrites, donc ils vous ont peut-être deviné,
ah.
Ou peut-être pas, et c'est là qu'on se rendra compte que votre grande imagination, grande et belle, qui vous a permis d'inventer sept mots nouveaux, peut conduire à des pistes différentes. Et finalement, c'est pas mal, des mots qui veulent dire plusieurs choses.
Ben oui.
Ben, on va voir, peut-être qu'ils sont parfaitement raccords. Et raccords avec vous, je ne sais pas. On découvre. Alors, le premier mot, c'était vivituber.
Vivituber, hein, oui.
Un verbe. Qu'est-ce que ça veut dire, Eva Almassy?
Danser le twist sur le parquet ciré en chaussant des patins de feutre pour mieux glisser et raffermir ses quadriceps et ses adducteurs. Est-ce que c'est ça, le but? En fait, c'est un verbe de gymnastique.
Mmh. Ah, mais en même temps, quand on, le twist, il fallait lever les jambes un peu. Comment peut-on lever les jambes avec des patins?
Non, il faut les glisser. Et en même temps, ça affine aussi la taille, mais c'était trop long à expliquer.
C'est déjà un verbe très costaud.
C'est plus facile à montrer.
Comme Travolta dans...
La fièvre du samedi soir.
Non.
Mais non.
Mais non, dans...
Grise.
Non plus.
Ah bon, mais on n'a pas vu non, dans le violet.
Comment ça s'appelle?
Oui, c'est quoi?
Mais je ne sais pas, mais on va trouver.
C'est Pulp Fiction.
Pulp Fiction, voilà.
Il fallait un petit temps de réflexion, il fallait se tromper beaucoup pour arriver à la vérité.
Sur Chuck Berry.
Ah mais je n'ai pas vu. Alors, Patrice Delbourg, c'est le twist avec vous, Vivi Tubé?
Non, mais nous sommes dans le music hall. Vivi Tubé, c'est chanter une chanson de Charles Aznavour à tue-tête. Ah. Ce qui n'est pas si facile.
Tu te laisses aller, par exemple?
Par exemple, tu te laisses aller, il faut savoir. Les comédiens, ce n'est pas facile de crier du Aznavour. On peut le chuchoter, psalmodier, etc. Mais le crier, ce n'est pas si facile.
Viens voir les comédiens.
Oui. Qui arrive?
Oui.
Poussez la toile et venez vous installer. Le spectacle va commencer.
Ah oui, ça prend un petit côté nerveux quand même,
oui,
tendu.
Un peu énervé même.
Jalen Schwartz, est-ce qu'un de ces deux sens, danser le twist avec des patins ou crier du Aznavour?
C'est plutôt proche de ce qu'a dit Patrice quand même.
Ah bon?
Oui. Non, pas tout à fait, parce que c'est chanter dans sa tête, des heures durant, le refrain d'une chanson à la mode sans arriver à s'en débarrasser. Par exemple, toute la journée, formidable, formidable.
C'est pour ça que j'ai choisi Aznavour, pour faire le raccord avec formidable. Eh oui.
Ah oui.
Oui, mais là, on pense à Stromae plutôt.
Bah oui, c'est Stromae.
Ah oui.
C'est chanson à la mode. Mais c'est vrai que c'est dans sa tête. C'est quand moi, ça m'arrive souvent.
Et le riadin, Eva Almassi, ce serait quoi?
Un riadin, c'est un sérieux doute quant au bon ordre où se déroulent nos actions.
On est proche, on est.
Non. Alerte, il y a quelque chose quand même. Oui, ouais. Le fait d'être en alerte, peut-être.
Patrice Delbourg, vous êtes en alerte?
Oui. Oui. Le riadin, c'est une violente douleur thoracique qui peut faire penser à une alerte cardiaque, mais qui n'est le plus souvent qu'une crise d'angor.
Bah, c'est pas mieux, dites donc. Hein.
Oui, mais c'est souvent d'une anxiété. Hein.
Oui, oui.
Angor, angor, le temple, le fameux temple d'angor qui a connu des touristes.
Et alors, pour vous, tel que vous l'aviez imaginé, ce mot veut dire quoi, Violaine?
Oui, anxiété, bah vous n'êtes pas si loin. C'est appréhension éprouvée pendant que quelqu'un raconte une histoire drôle, à l'idée de ne pas la comprendre.
Bah, on peut en faire
On peut en faire une crise cardiaque.
Bah oui, on peut en faire une crise cardiaque.
Bah, je ne veux pas jusque-là, moi, quand même.
C'est vrai que c'est désagréable en écoutant des papous dans la tête, par exemple.
Parce et on ne comprend pas.
Bah, mais très riadin, quoi. Qu'est-ce que t'es riadin?
Le mot suivant, c'est la lithylose, Patrice Delbourg.
Alors, la lithylose, c'est l'invasion d'acariens assez courante dans les petits pavillons en pierre meulière de la vallée de Chevreuse.
Ah, uniquement? Ce sont des locaux?
Oui, parce qu'ils passent, les acariens se glissent entre les jointures moussues de la meulière et bon, et investissent la literie, les matelas et tout. C'est en automne surtout.
Ah, d'accord.
Donc, c'est en ce moment.
Donc, il faut éviter la vallée de Chevreuse. Quoi.
Moi, c'est beaucoup plus souvent puisque c'est une accumulation des troupeaux de moutons sous le lit.
Quand même quelque chose.
Il y a des acariens.
Oui. Et puis en plus, il y a des troupeaux. Hein, oui.
Les acariens et les acariennes, évidemment.
Oui. Violaine Schwartz, c'est un petit point commun?
Oui, un petit point commun, oui.
Pour vous, c'est quoi?
C'est l'odeur prégnante de la litière pour chat, oubliée dans son bac depuis trop longtemps.
Il y a quelque chose, parce qu'il peut y avoir aussi des moutons dans les litières et des acariens sûrement. Mais il y a l'odeur en plus. Hein. Chez vous, il n'y avait pas l'odeur.
Non, l'acarien est totalement inodore.
Ouais. Et oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas le chasser. On ne le voit pas de toute façon. Mot suivant.
Eh bien, il s'agit de la...
Blurgie. Une blurgie, c'est une envie de chanter un air de Patricia Cass en se rappelant soudain qu'on n'est plus cette mademoiselle qui chante le blues, mais une ménagère de 50 ans.
Oh là là, ah oui, dans Blurgie, il y a une sacrée nostalgie, une tristesse. Hein. Oula, qu'est-ce que vous pensez de la blurgie, Jean-Bernard Puit? Cette
rien.
Définition,
rien. Aznavour, Patricia Cass, je suis complètement dépassé.
Patrice Delbourg.
Alors la blurgie devant une vitrine de librairie, c'est un accès de violence destructrice à la vue des romans de Didier Van Cauwelaert.
Ah bon? Ah oui.
Ouais. Didier Van Cauwelaert est un peu le Patricia Cass de littérature.
Pire même, je crois, parce qu'il n'a pas eu de bons moments.
Il casse pas
Patricia
trois pattes,
Cass, il y a eu des bons moments.
Elle casse pas trois pattes.
La blurgie, alors, selon vous, Violaine, c'était quoi?
Oui, la violence, c'était pas trop loin. C'est une envie récurrente et coupable, en faisant le ménage, de jeter le collier de nouilles ou tout autre cadeau spécial fête des mères, réalisé par les enfants des écoles.
Eh oui, et par le vôtre ou la vôtre, évidemment. Oui, mais c'est une envie qu'il faut réprimer quand même.
Je suis cérébrée là. Je sors dehors quand ça m'arrive. Je vais prendre l'air.
Il y a plutôt de l'orgie dans la blorgie. Donc, ça va être un vrai plaisir quand même.
Oui, oui. Et du défoulement, quoi. Après, Eva, quel était le mot?
La capouclette.
Ah, ça, c'était tellement mignon.
Oui, mais ça aurait pu être mon mot préféré, mais hélas, la signification, c'est la pile de pages non numérotées du chef-d'œuvre de roman d'espionnage sous forme de manuscrit. Enfin, de son mari dans l'histoire.
Ah oui, alors, oui, mais on verra après, oui.
Pour l'instant, c'est une bonne pile, mais les pages ne sont pas numérotées.
C'est embêtant, évidemment. Ouais. Ça ressemble?
Non.
Et pour vous, Patrice Delbourg?
Eh bien, la capouclette, c'est une fine monture d'écailles que l'on chausse le soir pour faire tranquillement les grilles de sudoku de Télérama.
Uniquement Télérama?
Uniquement Télérama. Des petites lunettes, des basiques comme ça, extrêmement fines, qui sont excellentes pour le sudoku.
Ah oui, ça vous aide à trouver.
Oh, bien sûr. Évidemment. Pour les mots fléchés, c'est moins bien, mais pour le sudoku, c'est bien.
Et pour Violaine, alors, ça veut dire quoi, la capouclette?
C'est très proche. C'est une paire de lunettes écrasées plusieurs fois et qui emporte les stigmates.
On a fait le même texte, quasiment.
Branche de travers, collée avec du scotch, rafistolée avec un bout de trombone.
Ça, c'est bien. Et effectivement, il fallait un mot pour cet objet.
Bah oui.
Ça, c'est clair. Hein. On a encore quelque chose, non?
On a claque-vissée.
Et oui. Alors, Patrice Delbourg.
Alors, claque-vissée, c'est jeter par mégarde dans le vide ordure un fond de roukmout alors qu'il s'agit d'un précieux restant de Pomerol 1966 que votre compagnon se réservait soigneusement pour une grande occasion.
Mais t'as dit quoi? Un fond
un
de quoi
fond.
De roukmout.
De roukmout.
Mais c'est quoi le roukmout?
C'est un rouge de consommation courante. Ah, oui, un pichtegorne. Vous les préférez pichtegorne?
Non.
Oh là là, mon vocabulaire s'agrandit à tout à l'heure.
Je ne connaissais pas le roukmout. Non, le roukmout.
Le spécialiste de l'argot parisien ne connaît pas le roukmout.
Non, celui-là, je ne le connais pas.
Est-ce que c'est dans le dictionnaire d'argot de Karadec?
Oh, sûrement,
il est dans d'autres en tous les cas.
Alors chez moi.
Oui, chez Eva.
Claque-vissée, cette danse et le twist. Avec des claquettes à la place des patins.
Et pour Violaine, ça veut dire
C'est assez loin. Ça veut dire s'installer pour pique-niquer, à 3 heures de marche de la voiture, au sommet d'une montagne sans réseau, et découvrir avec horreur l'oubli des œufs durs dans la casserole bouillante sur le feu.
Oh, alors ça m'est arrivé.
Épouvantable.
Ah oui.
Ah non, ça,
ah oui, le retour est épouvant.
Ah ouais.
Et le septième mot, alors?
Le rabillaud.
Oui, c'est quoi le septième?
C'est
mot?
Une ventrule.
Oui.
C'est important, la ventrule.
Je
parce que c'est
pas.
La joie de se laisser tomber sur le popotin, et donc le ventre à l'air, devant les beautés de cette chair orange-bleue que nous habitons.
Mmh. Oh, c'est joli. Ah, oh, on se fait une ventrule et poum.
Oui,
d'accord. C'est l'extase,
dans l'air,
en quelque
quand
sorte.
Même, pas sur l'asphalte.
Oui, bien sûr. La ventrule de Patrice Delbourg, c'est quoi?
Oh, c'est loin d'être extase, la ventrule. La ventrule, c'est le regret éternel de s'être mis en couple avec une personne du sexe qu'on n'a pas, alors qu'on était si bien célibataire.
Évidemment. Ah non, alors, ça, je suis pas d'accord.
Ah non, mais le vécu de
c'est
Patrice Delbourg et Lucien.
Vous vous demandez ce que c'est une ventrule, je vous le dis. Bon.
Chacun sa vie, Eva.
Chacun sa ventrule.
Et la ventrule de Violaine Schwartz?
Oui, c'est la joie irrépressible de savoir qu'il pleut à verse dans le sud de la France, alors qu'on est à Paris, sous un soleil radieux.
Ah ben oui.
Ah alors, oui, ben voilà la joie. Voilà, ouais, la joie.
On a deux joies et quelque chose de très triste avec Patrice Delbourg. Oh,
pas
on
si
aimerait
triste
bien,
que ça.
Non, on va non. voir dans le contexte, on aimerait bien entendre d'abord vos traductions. Hein, Eva Almassy.
Depuis le matin, elle dansait le twist sur le parc ciré en chaussant des patins pour mieux glisser et raffermir ses adducteurs et ses quadriceps formidables. Pour faire diversion, elle mit la radio et tomba sur des papous dans la tête, mais elle ressentait aussitôt
comme un sérieux doute quant au bon ordre où se déroulaient ses actions. Du coup, elle décida plutôt de passer l'aspirateur et de faire le ménage, d'autant plus que l'accumulation des troupeaux de moutons sous le lit l'exigeait. Dans le salon, en époustant la bibliothèque, elle fut prise d'une irrépressible envie de chanter un air de Patricia Cass, en se rappelant soudain qu'elle n'était plus cette mademoiselle qui chante le blues, mais une ménagère de 50 ans. Pour ne pas faire pleurer son fils, elle choisit au dernier moment de sortir prendre l'air. En chemin, elle marcha encore sur la pile de pages non numérotées du chef-d'œuvre de roman d'espionnage de son mari. C'était la troisième fois qu'elle faisait cette bêtise. Elle allait encore se faire engueuler comme dimanche dernier quand elle avait dansé le twist avec des claquettes à la place des patins. Dehors, elle vit des canards qui nageaient en randonnion sur le canal. Ça lui rappela les vacances. En plus, il faisait un temps magnifique. Quelle joie de se laisser tomber sur le popotin et le ventre à l'air devant les beautés de cette chair orange bleue que nous habitons.
Mmh. Oh, c'est un texte magnifique, hein. C'est une petite scène du quotidien, la femme, son mari qui écrit, qui n'y arrive pas, parce qu'il n'arrive pas à numéroter les pages. Mmh. Ah, c'est un petit drame, quoi, mais c'est une jolie scène. Hein. On voit le film, Jean-Bernard, non?
Oui.
On voit Pulp Fiction.
Bon, avec Patrice Delbault, on va découvrir autre chose.
Une autre tranche de vie,
oui,
ménagère, voire casanière.
Oui.
Depuis le matin... Elle chantait une chanson d'Aznavour à tue-tête. « Formi, formidable !» Pour faire diversion, elle mit la radio et tomba sur des papous dans la tête. Mais elle ressentit aussitôt comme une violente douleur thoracique qui peut, certes, faire penser à une alerte cardiaque, mais qui n'est le plus souvent qu'une crise d'angore. Du coup, elle décida plutôt de passer l'aspirateur et de faire le ménage, d'autant plus qu'une invasion d'acariens assez courante dans les petits pavillons en pierre meulière de la vallée de Chevreuse l'exigeait. Dans le salon, en époustant la bibliothèque, elle fut prise d'un irrépressible accès de violence destructrice à la vue des romans de Didier Van Kovelaert. Pour ne pas faire pleurer son fils qui, lui, l'aimait ce petit con, Didier Van Kovelaert. Elle choisit au dernier moment de sortir prendre l'air. En chemin, elle marcha sur la fine monture d'écailles que l'on chausse le soir pour faire les grilles de sudoku de Télérama. Monture appartenant à son mari. Catastrophe ! C'était la troisième fois qu'elle faisait cette bêtise. Elle allait encore se faire engueuler, comme dimanche dernier, quand elle avait jeté par mégarde dans le vide ordure un fond de roukmout, alors qu'il s'agissait d'un précieux restant de pomerol millésime 66 que son compagnon se réservait soigneusement pour une grande occasion. Dehors, elle vit des canards qui nageaient en randonnion sur le canal. Ça lui rappela les vacances. En plus, il faisait un temps magnifique. Quel éternel regret de s'être mis en couple avec une personne du sexe qu'on n'a pas, alors qu'on est si bien célibataire.
Ah là là, il y a une profondeur. Évidemment, dans le texte de Violaine, il y avait cette engueulade. Ah, donc il y a forcément un petit peu de noir dans toute cette joliesse. Hein. Et chez vous aussi, Violaine. On peut écouter la version originale.
Depuis le matin, elle chantait dans sa tête le refrain d'une chanson à la mode, sans arriver à s'en débarrasser. Formidable, formidable. Pour faire diversion, elle mit la radio et tomba sur des papous dans la tête. Mais elle ressentit aussitôt comme une appréhension à l'idée de ne pas comprendre les histoires drôles racontées. Du coup, elle décida de passer l'aspirateur et de faire le ménage. D'autant plus que l'odeur prégnante de la litière pour chat, oubliée dans son bac depuis trop longtemps, l'exigeait. Dans le salon, en époustant la bibliothèque, elle fut prise d'une envie récurrente et coupable de jeter le collier de nouilles ou tout autre cadeau spécial fête des mères réalisé par les enfants des écoles pour ne pas faire pleurer son fils. Elle choisit au dernier moment de sortir prendre l'air. En chemin, elle marcha encore sur la paire de lunettes de son mari. écrasé déjà plusieurs fois et qui emportait les stigmates. Branches de travers, collées avec du scotch, rafistolées avec un bout de trombone. Catastrophe. C'était la troisième fois qu'elle faisait cette bêtise. Elle allait encore se faire engueuler. Comme dimanche dernier, quand elle avait, au moment de s'installer pour le pique-nique, à 3 heures de marche de la voiture, au sommet d'une montagne sans réseau, découvert avec horreur l'oubli des œufs durs dans la casserole bouillante sur le feu. Dehors, elle vit des canards qui nageaient en randonnant sur le canal. Ça lui rappela les vacances. En plus, il faisait un temps magnifique. Quelle joie irrépressible de savoir qu'il pleut à verse dans le sud de la France alors qu'on est à Paris sous un soleil radieux.
Oh, mais ça se termine très très bien.
Oui, ça se termine
très
bien.
très bien. Et il y a cette espèce de douceur de la vie finalement, parce qu'à part l'accident des lunettes et celui des œufs durs, tout va bien.
Oui.
Hein? Oui, tout va bien, sauf pour les voisins qui aimeraient, eux, écouter des papous dans la tête et il y a le bruit d'aspirateur.
Ah oui.
Ah, il n'y a plus de maison puisqu'il y a la casserole qui a explosé.
Je ne suis pas très optimiste. Oui.
Faut le dire vite, non, avec Violaine, je trouve des communautés d'agacement dans la vie de couple qui sont assez.
Oui, noter, une espèce de rage rentrée,
oui,
rage délicate,
non,
je dirais presque.
Mettre, avoir une béatitude sur ces textes, hein. La vie à deux n'est pas si facile que ça.
Et juste avant de refermer ce numéro des papous dans la tête, et pour dire notre affection pour ce jour si particulier qui nous réunit sur France Culture, dans notre série « Les jolis dimanches », Gérard Mordillat propose « Le dimanche de Rose ».
C'est aujourd'hui dimanche pour ma jolie maman. J'achète des roses blanches, moi qui les aime tant. Maman ne les aime pas, elle me dit t'es qu'une tanche. Va donc pour le repas me prendre un gigot à manche. C'est aujourd'hui dimanche, adieu jolie maman, je me tire dans la manche, puisque j'ai le temps, je rejoins ma rose blanche, je sais qu'elle m'attend, pour s'en payer une tranche, c'est mieux que toi maman.
Oh la poésie, c'est terrible.
C'est fini ?
C'est dommage.
Des papous dans la tête, c'est fini, et oui, pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Manuel Couturier. À télécharger sur franceculture.fr pendant 1 an ou à réécouter directement sur votre ordinateur à la page des papous pendant 1000 jours. Page sur laquelle vous pouvez glisser vos remarques, questions et autres suggestions à la rubrique commentaires. Au revoir, dans quelques instants, ce sera l'heure de Tire ta langue par Antoine Perrault. Passez un très bel après-midi, sourire sur France Culture.
Tiens,